Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Du Trisac. L'original.
Radio.
Du Trisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Ben, l'original, non. C'est encore la copie. C'est Antoine Robitaille qui est au micro pour vous jusqu'à 13h. Heureusement, c'est vendredi, hein? 26 février 2021. Il est encore malade, ce cher Benoît. Mais je le remplace avec plaisir, vraiment. Je vais multiplier, comme d'habitude, les sacramouilles pour que vous soyez pas trop dépaysés. Et on a une belle émission, là, vraiment, en ce vendredi. On a l'historien Éric Bédard qui sera là à 11h. On va se pencher sur l'idée de rebaptiser l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, l'aéroport Dorval. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit à la suite d'une chronique que j'ai écrite cette semaine sur ce sujet-là. Moi, je trouve que, en tout cas, ça mériterait d'être considéré. Et là, Éric Bédard, lui, s'est déjà penché là-dessus. Dans le cas de McDonald's, vous vous souvenez la fameuse statue qui avait été déboulonnée, là? Il se disait, lui, c'est peut-être pas une bonne chose qu'on déboulonne, qu'on rebaptise. Alors, on va discuter de ça avec lui, ça devrait être intéressant. Puis juste avant, on fera une espèce de recension des propositions qu'on a reçues pour rebaptiser l'aéroport Trudeau. À midi, Louis-Gilles Francoeur sera là. Louis-Gilles, c'est un ancien journaliste, chroniqueur en environnement et en chasse. Donc, c'est un environnementaliste chasseur. Et c'est intéressant, on va se pencher sur la question des chevreuils à Longueuil, évidemment, ça rime. Mais aussi l'idée qui a été lancée à Sainte-Anne-de-Bellevue d'abolir carrément la chasse sur l'île de Montréal. C'est une bonne idée? Est-ce que c'est... En tout cas, on va en discuter avec lui. Ça devrait être très intéressant, ce sera à midi. Mais d'abord, il semble qu'on n'ait pas encore tiré les leçons de la catastrophe de Lac Mégantic. La vérificatrice générale du Canada a soutenu hier dans son rapport, un rapport qui en suivait un autre là de 2013, que le ministère fédéral des Transports surveille pas adéquatement la sécurité des voyageurs et des marchandises sur rail. Donc, on en discute tout de suite avec Robert Bellefleur, porte-parole de la Coalition des citoyens engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, M. Bellefleur. Dites-moi, comment vous avez réagi à la lecture du rapport de Karen Hogan?
Nous aussi, à Lac-Mégantic, on n'a pas été du tout surpris parce que c'est ce qu'on décrit depuis bientôt 7 ans après la tragédie de Lac-Mégantic. On a constitué un groupe citoyen qui faisons nous-mêmes l'inspection des rails et je peux vous confirmer qu'il n'y a pas eu d'amélioration. En 2015, il y avait un rapport de Transport Canada qui déterminait qu'il y avait 115 rails effectués entre Lac-Mégantic et Farnham. Et en 2018, un autre rapport qui confirmait qu'il y en avait 253. Donc, le double rail défectueux à Lac-Mégantic, l'endroit où il y a eu une des pires tragédies ferroviaires au Canada, même à Lac-Mégantic, les rails sont dans un état lamentable et étaient dangereux.
C'est une sorte d'insensibilité ou quoi? Pourquoi on corrige pas les choses? Parce que c'est risqué, là.
Regardez, c'est au niveau du processus. C'est qu'à partir de 1990, on a déréglementé et on a mis en place l'autogestion de la sécurité des transports par les compagnies elles-mêmes. Donc, Transport Canada a cessé de faire l'inspection systématique des rails, l'a confié à l'entreprise privée, aux compagnies de chemin de fer. Et c'est juste placé en vigie. C'est-à-dire qu'il est là juste pour surveiller l'application des systèmes de gestion de la sécurité que les compagnies doivent avoir mis en place et qui, pour la plupart, ne sont même pas effectives. Alors, c'est comme s'il était en haut puis il regardait les compagnies s'auto-réglementer. Donc, il ne peut pas être efficace, Transport Canada, parce qu'il n'est pas directement en lien. Il ne fait pas d'inspection directe sur les rails. Quelquefois, il va faire des inspections aléatoires quand il sent qu'il y a un problème en quelque part, mais lorsqu'il y a un problème qui est que nous, on a soulevé souvent des problèmes à Transport Canada sur les rails, on a fait des signalements, des multiples signalements. Ils viennent voir, bon, tout est conforme. Mais écoutez, la semaine d'après, souvent, le train déraille.
Ah bon, OK. Il y a eu beaucoup de déraillements depuis. Excusez mon ignorance, là. Il y a eu beaucoup de déraillements.
En 2018, on a mis la main sur le fameux rapport de Transport Canada qui déterminait qu'il y avait 253 rails défectueux. Moi, je suis allé voir parce qu'il y avait les points miliaires qui apparaissaient. On a identifié un rail en particulier qui était vraiment... Il ondulait, là. On voyait des vagues dessus, là. Okay. Près d'une traverse à niveau. On a fait un signalement. Ils sont venus voir... La compagnie a tenté une réparation, mais le train a déraillé une semaine après dessus. En novembre 2019, à Bolton, dans les cantons de l'Est, un déraillement aussi. Il avait réparé les rails, mais il avait installé un rail plus vieux et plus amoché que celui qui était là.
Ah oui. Donc, ils s'en foutent un peu, c'est ce que je comprends.
Mais c'est que c'est les compagnies eux-mêmes qui sont responsables de s'auto-inspecter.
OK.
Alors, comme on sait, les compagnies de chemin de fer sont pour la plupart investies en bourse. Ils doivent donner des bons dividendes à leurs actionnaires. Et souvent, ils vont prioriser la vitesse, ils vont prioriser la longueur, une longueur accrue des convois.
Donc au fond, là, si je comprends bien, monsieur Bellefleur, c'est qu'il faudrait que le fédéral reprenne cette responsabilité-là carrément. Il faudrait qu'on...
Effectivement. Puis on peut faire un parallèle avec la saga des Boeing 747 MAX. On se souvient que l'Association de l'aviation américaine avait confié la certification des avions à Boeing lui-même. Et on sait ce qui s'en est suivi. C'est connu de longue date qu'on ne peut pas confier l'autorégulation de la sécurité à une compagnie qui est là pour faire utilement des profits. Ça n'a jamais tenu la route, ça.
Oui, mais dites-moi, l'accident de 2013, il n'a pas été juste causé par une mauvaise qualité des rails. C'est aussi une mauvaise surveillance, le train qui était finalement, qui roulait sans conducteur. Là. C'est pas juste...
C'est dû à la falsification aussi du contenu des convois. C'était du pétrole hautement inflammable, de PG1, alors qu'on l'avait classifié, World Fuel, Irving et CP l'avaient classifié, peu inflammable. Et ce qui avait permis de le transporter dans des DOT 111 qui sont pas sécuritaires. Donc, c'est toute une problématique systémique. Oui. C'est que les compagnies essaient, à moindre coût, de transporter des marchandises dangereuses au bénéfice de leurs actionnaires. C'est ça le problème. Et Transport Canada est au-dessus de ça. Il faut juste regarder passer la parade.
Avez-vous peur que d'autres accidents de l'ampleur là, de Lac Mégantic se produisent?
Regardez, l'automne dernier, hein, le commissaire à l'environnement, qui est sous la directrice générale du Canada, a sorti un rapport qui disait que Transport Canada n'était pas en mesure de bien identifier les sites et les processus de transbordement des matières dangereuses au Canada. Il a identifié qu'il y a eu, depuis Lac Mégantic, ça fait 7 ans, là.
Ouais.
Il y avait eu 7 déraillements majeurs de trains, dont les 2 derniers à Guernsey, en Saskatchewan, et puis qui étaient dus à l'usure des rails. C'est que ces fameux trains blocs-là de 100 wagons et plus, ça dépasse souvent les 10 millions de tonnes. Écoutez, et les rails sont conçus pour 6 millions, tu sais. Ça déraille. Excusez l'expression, mais... Et puis en plus, ils vont à 40 000 à l'heure. Donc, il y en a eu 7. Et le commissaire à l'environnement, qui a été interviewé par les médias lors de la divulgation de son rapport, a vraiment confirmé qu'il n'excluait pas une autre tragédie comme Lac Mégantic dans les conditions actuelles.
C'est épouvantable. En tout cas, est-ce que vous pensez que la voie de contournement dont on parle depuis longtemps, d'abord, elle va-t-il se faire à un moment donné? Puis ça, est-ce que ça pourrait régler au moins une partie du problème?
Nous, à Lac Mégantic, actuellement, on est très, très inquiets parce que, bon, on sait que Keystone XL ne sera pas construit. On n'est pas d'accord non plus avec les oléoducs, là, mais on sait quand même qu'il y a beaucoup de pétrole qui y passe. On sait actuellement que je pense que la gouverneure de l'État du Michigan veut bloquer Enbridge, qui est un vieux oléoduc qui passe, qui amène 90% du pétrole à Montréal. On sait qu'elle veut le fermer parce qu'il est désuet. Nous, c'est le CP qui a racheté la ligne ici l'an dernier. Il s'annonce dans les publicités en disant qu'il offre des opportunités de transporter du pétrole d'un océan à l'autre. Donc, Lac Mégantic, actuellement, vit avec la crainte de la reprise du transport du pétrole et des matières dangereuses. Et notre voie de contournement n'est même pas encore commencé de construire.
C'est ça.
Et on dit 2021 et l'opérationnalisation en 2024. Alors,
espérons que ça va bouger au moins avec ce rapport-là. Je vous remercie beaucoup, Robert Bellefeuille. Belfleur.
Merci. Merci, au revoir. Merci, Robert.